Abraham, homme de Dieu. Le sujet dont il va nous occuper durant ces 3 jours est intitulé Abraham mis à l'épreuve. Le verset qui figure sur notre programme, que vous avez tous reçu, dit manifesté par l'épreuve. C'est un verset donc qui est pris de l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 12. Et j'ajoute tout de suite un autre verset dans l'épître de Jacques. Si vous voulez ouvrir vos Bibles au chapitre 5, verset 11, Bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Et un peu plus loin, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Et un peu plus loin, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Ce soir, nous avons dans notre assistance des sœurs, des frères qui passent maintenant par l'épreuve dure, pénible. Et nos prières sont que non seulement vous ayez la patience, mais que vous puissiez, et que nous puissions tous, à notre tour dans nos vies, expérimenter les compassions et les miséricordes du Seigneur. Abraham, lui, en fait l'expérience. Tout d'abord, dans son trajet de Ur à Canaan, Abraham est appelé à tout quitter, à quitter ses attaches familiales, matérielles, culturelles, pour obéir à l'appel de Dieu. Quelle épreuve! Mais le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Cette épreuve est accompagnée de promesses, de bénédictions pour lui, pour son peuple, le peuple d'Israël, et en Christ pour l'humanité tout entière. Chers frères et sœurs, si nous sommes là ce soir, n'est-ce pas entre autres grâce à la foi d'Abraham? Autre épreuve que nous verrons, l'épreuve de l'Égypte, l'épreuve de la famine à laquelle succède la chute d'Abraham qui offre sa femme Sarah au Pharaon. Mais la réalité des faits l'amène à l'épreuve de l'humiliation. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Dit le Pharaon. Quelle honte! Renvoyé d'Égypte, mais Dieu retrouve Abraham à Bethel. Les miséricordes et les compassions du Seigneur, il a à nouveau ce contact avec son Dieu, malgré sa chute. Et à quel endroit? À cet endroit de Bethel, la maison de Dieu, le lieu de la communion, le lieu de l'intimité, le lieu de l'adoration. Une autre épreuve, la séparation d'avec Lot. Lot, dans son égoïsme, choisit pour lui toutes les plaines du Jourdain. Genèse 13. Pourquoi Abraham a-t-il agi ainsi? Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas facile, mais c'est chose possible de ne pas insister sur ses droits. C'était une épreuve pour Abraham, mais il a laissé Lot choisir, ne pas insister sur ses propres droits, même s'ils sont légitimes, et le faire dans un esprit de paix. Et Dieu, dans ses compassions, vient aussitôt réconforter Abraham qui a ainsi cédé, et lui dit, Abraham, lève tes yeux et regarde. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Autre épreuve, Sodome et Gomorre. Quelqu'un de sa famille, Lot, est dans cette ville. Lot s'est détourné du Seigneur. Lot vit dans la débauche. Lot vit dans un milieu perverti. Que fait Abraham devant cette épreuve pour lui de sentir un membre de sa famille qui s'est écarté? Il intercède pour Lot et sa famille. Et il est dit, au chapitre 19 de la Genèse, Dieu se souvint d'Abraham et renvoya Lot hors de la destruction. Frères et sœurs, nous avons probablement dans bien de nos familles ou connaissances de chers frères et sœurs qui sont détournés du chemin du Seigneur et qui égoïstement ont choisi un chemin peut-être comme Lot. Intercédons pour ces personnes. Et Dieu se souvint d'Abraham comme il se souvient de ses frères, ses sœurs qui sont écartés, les renverra comme il a renvoyé Lot, hors de la destruction. Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Autre épreuve, le refus du compromis. Je m'explique. Chasse cette servante et son fils, dit Sarah à Abraham, à propos d'Agar et Ismaël. Et là, Abraham devait être étonné. Et Dieu approuve Sarah. Malgré la grande souffrance que subissait Abraham, Dieu dit à Abraham que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l'enfant et à cause de ta servante. Tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix. Quelle douleur pour Abraham lorsqu'il doit renvoyer Agar et Ismaël. Mais alors, de nouveau les compassions de Dieu. Alors Dieu confirme à nouveau sa bénédiction à Abraham. En Isaac te sera appelée une semence. Et puis, une autre épreuve, la dernière que je citerai ce soir, nous en verrons d'autres pendant notre sujet, c'est l'offrande de son fils Isaac, son fils unique. Et je dirais savoir céder à Dieu ou savoir se soumettre à la volonté de Dieu. Alors, l'ange peut dire à Abraham, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là, c'est-à-dire que tu as offert ton fils, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai. Oui, l'épreuve, dans l'épreuve, Abraham a expérimenté la miséricorde et les compassions de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, et je lirai le verset 7, et qui s'applique dans nos vies. L'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée, tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ. C'est la preuve que Dieu veut nous faire saisir, que ce qu'il a opéré dans nos cœurs est ferme et solide. Abraham découvre dans chaque épreuve le Seigneur en restauration. Sur notre feuille, vous voyez que il est dit qu'Abraham est le père de tous les croyants. Et comme nous l'avons déjà dit, si nous sommes ici et s'il y a des croyants sur la terre, n'est-ce pas parce que Abraham, un jour, a été béni de Dieu, a reçu ses promesses et a été fidèle aux promesses de Dieu. Il est dit aussi sur notre feuille qu'il est l'ami de Dieu, l'ami de Dieu, prenant Dieu pour son rocher, pour son partage, pour sa foi étant approuvée par Dieu, sa confiance étant implicitement en Dieu. Il nous est dit aussi sur cette feuille, et nous allons le voir pendant ces 3 jours, qu'il est le modèle de la foi. Abraham marchait dans la lumière comme Dieu était dans la lumière. Oui, la foi, c'est pas seulement croire en Dieu. Elle est aussi un engagement dans une pleine conviction. Il est dit dans Colossiens 1, marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre. L'attitude d'Abraham ne pouvait qu'honorer Dieu. Être des modèles de foi. Puis dans notre sujet, nous verrons les promesses qui ont été faites à Abraham. La promesse n'est pas une alliance, parce que dans une alliance, il y a deux parties. La promesse est unilatérale, et la foi la saisit, elle accepte les promesses de Dieu. Dieu, lorsqu'il donne une promesse, il ne demande pas de contrepartie à ses promesses. Parce que Dieu est un Dieu qui donne. Mais Dieu demande de nous notre engagement. Il est dit dans l'évangile de Jean quant à Abraham, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Frères et sœurs, nous avons des promesses que le Seigneur nous a données et dont nous entendons et nous lisons dans la parole Tressaillons-nous de joie comme Abraham devant les promesses de Dieu? Nous réjouissons-nous des promesses que le Seigneur nous fait? Malgré les défaillances, les épreuves, les doutes, les fautes, avec toutes leurs conséquences, Abraham est resté fidèle parce que Dieu seul dirigeait sa vie. Il est intéressant que dans le Nouveau Testament, il n'est jamais parlé de chute ou de défaillance ou de péché commis par des hommes de Dieu qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Pourquoi dans le Nouveau Testament, il nous est parlé du positif de ces hommes, de leur foi, de leur engagement pour le Seigneur, et pourtant ils ont eu bien des fautes qui ne sont pas reportées? Pourquoi? Eh bien, au milieu de la Bible, au milieu de l'histoire de l'humanité, il y a la croix du calvaire. Il y a notre Seigneur, notre Sauveur, qui a porté nos péchés et leurs péchés en son corps sur le bois. Le seul péché qui est reporté, et c'est intéressant, c'est le péché d'Élie, le péché d'orgueil. Et s'il nous est reporté dans le Nouveau Testament, c'est bien pour nous parler sérieusement. Gardons-nous de l'orgueil spirituel. Gardons-nous de croire qu'on est seul et unique. Si Dieu nous a donné des bénédictions, soyons reconnaissants et soyons fidèles comme Abraham est resté fidèle. Après cette introduction, je vous invite à chanter au cantique 227, les strophes 1 et 4. Le premier chapitre s'intitule « L'appel ». Et nous l'avons composé en trois parties. Le renoncement, deuxièmement l'engagement ou la foi croyante, et troisièmement l'acte d'obéissance et les promesses de Dieu. L'acte d'obéissance et les promesses de Dieu, la foi de confiance. Le deuxième chapitre, la marche de la foi ou la foi de conviction, qui se substitue en deux sous-chapitres, la foi affermie, et deuxièmement l'école de la foi et l'appui de la foi. Donc le deuxième chapitre s'intitule la marche de la foi ou la foi de conviction, divisé en deux parties, la foi affermie et l'école de la foi et l'appui de la foi. Le troisième chapitre, l'adoration. Le quatrième chapitre, les épreuves. Et le cinquième chapitre, conclusion. Le premier chapitre, le renoncement. Donc, l'appel, le renoncement. La ville natale d'Abraham s'appelle donc Ur en Chaldée. Elle se situait donc en Mésopotamie méridionale, non loin du confluent du Tigre et de l'Euphrate. Une ville prospère, la véritable ville lumière de l'Antiquité, elle précédait de 15 à 20 siècles la fastueuse Babylone de Nebuchadnezzar. Pour preuve de l'ampleur de cette ville, les archéologues y ont déterré les vestiges de luxueux palais et d'une civilisation alors à la pointe du progrès. Et c'est également dans cette ville que règne l'idolâtrie et entre autres le culte de la lune. On peut supposer qu'Abraham, enfant, a été initié, entre autres, aux religions et à l'idolâtrie de ces lieux qui reniaient Dieu. Dans Josué, au chapitre 24, au verset 2, vous pouvez ouvrir vos Bibles, dit au milieu du verset, « Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nakhor, ont habité anciennement au-delà du fleuve et ils ont servi d'autres dieux. » Et ils ont servi d'autres dieux. Je dirais également un verset dans Actes au chapitre 7, depuis le verset 2. « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Charan, et il lui dit, sors de ton pays et de ta parenté et viens au pays que je te montrerai. Tournez vos Bibles dans la Genèse, au chapitre 12, le premier verset. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Nous arrêtons là pour l'instant. Abraham, encore à Ur, est appelé par la lumière d'en haut. Le Dieu de gloire lui parle. Cette lumière qui se substitue aux ténèbres d'en bas est semblable aux Thessaloniciens dont il est dit, vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Tel va être le chemin d'Abraham. Ou comme Moïse appelé par Dieu au buisson ardent, comme Moïse devant la vision des séraphins, Dieu apparaît à Abraham. Et dès ce moment, que fait Abraham? Il met sa vie à disposition de Dieu qui l'appelle et qui lui dit, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Pourquoi Abraham doit-il sortir de son pays et obéir à l'appel de Dieu? Pour transmettre le message du salut. Ce message ne pouvait être corrompu par l'idolâtrie des Chaldéens. L'appel de Dieu, va-t'en de ton pays, sors, c'est un appel direct, clair, sans équivoque. Abraham devait abandonner les milieux déchus dans lesquels il vivait. Et pour supporter l'appel de Dieu, que dut faire Moïse? Il dut enlever ses sandales. Ésaïe, lui, dut accepter que le chérubin touche sa bouche avec le charbon ardent pour que son iniquité fût enlevée. Et seulement alors le Seigneur peut lui dire, va. Et qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, Romains 5, verset 10. Dans son livre, une croyante que probablement chacun connaît, dans son livre La foi, Corrie ten Boom, raconte comment elle a rencontré un jour un des surveillants du camp de concentration de Ravensbrück. Lorsqu'elle le reconnut, toutes les cruautés qu'il avait commises là-bas lui revinrent à l'esprit. Son bourreau était là en face d'elle. Mais son bourreau lui raconta alors comment il a rencontré Jésus. Je lui ai apporté tous mes péchés, puis je l'ai prié de m'accorder la grâce de pouvoir demander pardon à une de mes victimes. Madame, voulez-vous me pardonner toutes mes cruautés? Et Corrie ten Boom écrit qu'elle lui tendit la main. Je sentis alors se répandre en moi un courant d'amour et de pardon, l'océan de l'amour de Dieu. Au psaume 42, nous lisons, je t'ai fait connaître mon péché, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Tu es mon asile, tu me garderas de la détresse, tu m'entoures des champs de la délivrance. Oui, alors le Seigneur peut dire, va, je t'instruirai, et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Toute l'existence d'Abraham, qui vit dans cette atmosphère de péché, est transformée, car l'appel de Dieu émanait une dynamique capable de l'arracher de son idolâtrie, et Dieu va pouvoir le remplir par sa parole et par son esprit. Abraham s'engageait dans ce premier acte de foi, croire. Le geôlier de Philippe, voyant que toutes les portes de la prison s'étaient ouvertes, s'exclame, que dois-je faire pour être sauvé? Et le serviteur de Dieu lui répond, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Croire, le premier acte de foi, c'est accepter. La foi qui sauve inclut la repentance, reconnaissant la seigneurie de Christ, et devant sa seigneurie, se reconnaître pécheur. Alors la parole dit, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, c'est le don de Dieu. Croire, c'est aussi tenir pour vrai le témoignage, c'est accepter que c'est la vérité parce que Dieu est divin. C'est donc accepter de la parole de Dieu et agir en conséquence. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Hébreux 11, verset 6. Nous avons lu le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham et lui dit, viens au pays que je te montrerai. Pour qu'il y ait l'engagement d'Abraham, Dieu ne lui dit pas seulement, va-t'en, sors. Il ne faut pas seulement quitter toute cette idolâtrie. Il ne faut pas seulement accepter que nous sommes pardonnés de tous nos péchés par le sang de Christ. Mais il faut venir, viens. Viens au pays que je te montrerai. Et nous lirons dans la Genèse au chapitre 12 la suite de l'histoire d'Abraham. Verset 2. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je bénirai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Charan. Et ils sortirent pour aller au pays de Canaan. Et ils entrèrent au pays de Canaan jusque-là. Dieu déclare sept promesses à Abraham. La première, il lui montrera le pays promis. La deuxième, il lui fera devenir une grande nation. Vous trouvez ces promesses dans les versets que nous venons de lire, le verset 2. Troisième promesse, il lui promet sa bénédiction. Quatrième promesse, son nom sera rendu grand. Cinquième promesse, Abraham sera une bénédiction. Sixième promesse, Dieu bénira ceux qui béniront Abraham et maudira ceux qui le maudiront. Et septième promesse, les familles de la terre seront bénies en lui. L'objectif était clair, mais à cet objectif, Dieu lui donne cette promesse. Dieu attire Abraham. Dans Jérémie 31, il nous est dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Écoute, fille, et vois, et incline ton oreille, et oublie ton peuple, et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté, car il est ton Seigneur. Adore-le. Oui, que de richesse! Dans l'engagement chrétien, il y a le côté du renoncement, renoncer à toutes les choses auxquelles nous sommes attachés sur la terre. Mais il y a plus que Ur. Il y a le côté de toutes les promesses de Dieu. Quelles sont-elles pour nous? Et j'en relèverai sept. Premièrement, il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Deuxièmement, il nous a donné la rédemption. Troisièmement, la rémission des péchés. Quatrièmement, la parole de la vérité. Cinquièmement, le sceau de l'esprit, duquel nous goûtons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Sixièmement, la communion avec lui et avec ses rachetés. La communion avec lui et avec ses rachetés. Et septièmement, notre héritage que nous goûtons en partie et que nous recevrons avec tous ses rachetés. Donc, septièmement, notre héritage. Sous l'appel, nous avons troisième sous-chapitre intitulé « L'acte d'obéissance et les promesses de Dieu ». la foi de confiance. La foi est caractérisée par la confiance. La confiance est basée sur la connaissance de la personne à qui on fait confiance. Donc, la foi est caractérisée par la confiance. C'est pas seulement croire, mais c'est faire confiance. Et pour faire confiance, il faut connaître la personne. C'est la foi, la confiance en Dieu, dans le Seigneur. Et pour cela, il faut connaître du Seigneur. Pour que nous ayons foi, confiance en lui, il faut connaître du Seigneur ses caractères, ses actions, ses réactions, ses désirs. On pourra alors, connaissant le Seigneur sous ses divers aspects, s'abandonner totalement à lui. Parce qu'on sait comment le Seigneur va agir et réagir. Alors notre confiance devient non seulement une confiance, mais une confiance active. Chers frères et sœurs, comment pouvons-nous connaître le Seigneur et avoir cette foi de confiance? C'est en lisant la parole de Dieu, en écoutant sa parole. La foi est de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Pour Abraham, l'acte d'obéissance n'est malheureusement pas complet. Il quitte donc Ur. Il est accompagné de toute sa famille et surtout de son père. Et l'arrêt à 40 demandera à Dieu beaucoup de patience. Pour Abraham, cet arrêt, probablement d'environ 15 années, devait être éprouvé comme une déviation de l'appel initial, car il n'avait pas tout quitté pour servir Dieu et répondre à son appel. Il n'avait pas tout quitté, frères et sœurs. L'apôtre Paul peut dire aux Galates: vous courriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? Dans Galates 5. Abraham est freiné par son père Térakh. Son père, gardant toute l'autorité et désirant que son fils suive son père. Faut bien se placer à la place de Térakh qui avait déjà perdu un fils. Combien voulait-il que son autre fils, Abraham, le suive, même si c'était à moitié dans l'idolâtrie? Térakh prit Abraham, son fils. Sommes-nous nous-mêmes freinés dans nos activités spirituelles? Rappelons-nous que s'il y a frein dans les activités, les services que le Seigneur nous a confiés, il peut y avoir aussi arrêt, frères et sœurs. Ayons les yeux bien ouverts sur les Térakhs de nos vies, c'est-à-dire sur les obstacles dans les services que le Seigneur nous confie, et demandons-lui de les enlever. Parce que je vous rappelle, frein veut dire arrêt. Le vieillard Térakh, père d'Abraham, devait donc mourir pour qu'Abraham puisse pleinement obéir à l'appel de Dieu. Et nous lisons au chapitre 11, le verset 32, déjà au verset 31. Genèse 11, verset 31, et Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, et ils vinrent jusqu'à Charan, et habitèrent là. Et les jours de Térakh furent 205 ans, et Térakh mourut à Charan. Dans Éphésiens 4, au verset 22, tournons nos Bibles. Au milieu du verset, avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Les liens de sang, le légalisme, la mondanité s'avère parfois si tenace qu'ils vont jusqu'à entraver notre service pour le Seigneur. Il importe donc, suite à l'appel de Dieu, que l'on se détache de ces liens, peut-être même des liens familiaux, mais évidemment pas nécessairement de l'affection familiale, mais tout ce qui peut nous retenir dans le service du Seigneur. Jésus lui-même déclare en Matthieu 19, quiconque aura quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou champ pour l'amour de mon nom en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. Notre frère Corneille Bruns disait à propos de cette vie chrétienne pas totalement engagée, l'obéissance à l'appel du Seigneur, l'obéissance à 50% équivaut à désobéissance. Attendons-nous une catastrophe dans nos vies pour être 100% obéissants. Frères et sœurs, dans les Galates, il nous est dit, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Et pour cela, il faut livrer nos corps et nous-mêmes à Dieu comme d'entre les morts, étant faits vivants. Je vous invite, avant de prendre le chapitre suivant, à chanter au cantique 237, les strophes 1 et 2. La marche de la foi. Tout d'abord, la foi affermie. Donc, nous parlons de la marche de la foi ou de la foi de conviction. La foi affermie. Débarrassé de toute attache, Abraham peut maintenant marcher par la foi et non plus par la vue. McIntosh écrit, la foi repose sur un fondement bien plus solide que l'évidence de nos sens, car nos sens peuvent nous tromper, mais la parole de Dieu jamais. Abraham part avec une foi forte, hardie, qui ne doute nullement. Il est maintenant le croyant heureux, il est aussi l'homme obéissant et celui qui glorifie Dieu. Maintenant il marche dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière. Libéré de lui-même et de son entourage, il peut alors servir le Seigneur avec joie. Tournons nos Bibles dans Genèse au chapitre 12. Je relis le verset 4. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils entrèrent au pays de Canaan. Dieu le fit passer. Autrement dit, maintenant, toute la vie d'Abraham a changé. Dieu le prend en charge. Nous avons ici la foi de conviction. C'est bien de croire. C'est bien d'avoir confiance, mais c'est encore une autre chose, d'être convaincu, c'est-à-dire l'adhérence de notre être tout entier à Dieu. En Hébreux 11, il est dit, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Comme l'écrit un chrétien, la foi de conviction est une foi dont l'énergie est puissante et diverse, car sa source est en Dieu, parce qu'elle croit en Dieu. Et puis, voyons maintenant l'école de la foi. Pour aller dans cette terre promise, Abraham ne prend pas le chemin le plus facile. Il prend le chemin de la montagne. Mais rapidement, il réalise que le Cananéen est dans le pays. Expression, le Cananéen, de la puissance de Satan présente dans le monde dans lequel nous vivons. Mais au lieu de nous occuper de cette puissance, nous sommes appelés à saisir la puissance de Christ qui nous introduit dans toutes les bénédictions du pays promis. Non, la vie du croyant n'est pas une vie facile. Nous avons à passer par ces montagnes et nous avons l'ennemi qui rôde autour de nous. Chacun de nous l'expérimente, mais ainsi nous pouvons expérimenter d'une manière plus profonde et plus mûre ce que Dieu est pour notre cœur. Abraham est en route pour Bethel. Mais Abraham doit s'arrêter à Sichem. C'est là que plusieurs années plus tard, Jésus s'arrêta au puits de Sichar et aura cette merveilleuse rencontre avec la femme samaritaine au bord du du puits. Sichem est placé entre le mont Ebal et le mont Garizim. Sichem signifie épaule. Placée donc entre deux remparts naturels, elle est une place forte des Cananéens. Sichem donc épaule, comme le dit notre frère Alexander, Abraham était à l'école de la foi, ce qui impliquait pour lui, sur le plan spirituel, de courber l'échine de sa volonté et se soumettre aux instructions de son maître divin. Abraham avait encore une leçon à apprendre avant d'arriver à Bethel. Et dire que nous avons tant de peine à nous abaisser devant le Seigneur et à accepter son joug sur nos épaules. Prenez mon joug, dit le Seigneur, sur vous, et apprenez de moi, car mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Ou dans l'épître de Jacques, il est dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Ou dans son épître, Pierre s'exprime afin que l'épreuve de votre foi soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. À Sichem, en face de l'ennemi, la foi d'Abraham est raffermie, devient hardie, ne doutant nullement. C'est notre frère Bellette qui écrit cela. Dans nos vies de croyants, frères et sœurs, nous devons veiller à ce que notre foi soit une réalité, une foi de conviction. Et cette réalité de la foi s'acquiert comment? Eh bien, elle s'acquiert à l'école de la foi, par notre Sichem, où nous rencontrons tous les soins du Seigneur, que la patience et son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien, dit l'épître de Jacques. À l'école de Dieu, Abraham bâtit un autel qui lui était apparu. Et maintenant, Abraham arrive à Bethel. Bethel, ses deux côtés. Bethel, il est en face des Cananéens, entouré des Cananéens. Mais Bethel, il est aussi face à face, dans l'intimité avec son Dieu. Et nous lirons depuis le verset 6 de notre chapitre 12. Et Abraham passa au travers du pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta semence. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et tendit sa tente, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Près de Bethel, frères et sœurs, il y a Aï, représentant le monde moralement en ruine. Face aux Cananéens qui l'observent, probablement sans rien comprendre à sa piété et à son adoration, et face aux défis que représente ce pays peut-être partiellement ruiné, Abraham prie et affirme sa foi en face des Cananéens. L'autel dressé face aux Cananéens symbolise l'affirmation d'une foi déterminée vis-à-vis d'un adversaire dont elle n'ignore pas les desseins. Bethel, c'est aussi le lieu de la rencontre face à face avec Dieu, le Dieu de l'intimité, le Dieu que l'on vient adorer. Bethel veut dire maison de Dieu, le lieu de l'adoration par excellence, où la communion d'Abraham avec le Seigneur se renforce. Oui, c'est l'acte d'intimité avec notre Seigneur, le Seigneur de nos vies. Frères et sœurs, arrêtons-nous suffisamment dans nos vies, dans ce Bethel, cette maison de Dieu, que ce soit pour l'adorer individuellement ou collectivement, rappelant que l'adoration est un sentiment d'amour profond, de très grande affection, c'est le culte suprême que nous pouvons rendre à notre Dieu, au Seigneur et au Sauveur de nos vies. Adorer, c'est littéralement se prosterner devant Dieu, devant le Seigneur. Et nous terminerons par les épreuves. Les épreuves, pour Abraham, ce n'était pas une prise de position, mais une promesse qu'il reçoit de Dieu par la foi. Il n'entre dans le pays de Canaan pas comme un conquérant, mais il y entre que pour y séjourner. Bien que les promesses soient là, il n'a pas d'héritage, il n'a pas de postérité, mais sa fidélité est inébranlable, sa fidélité est inébranlable. Parce qu'à chaque étape, Dieu renouvellera ses promesses à Abraham et ne les mettra pas en doute. La foi d'Abraham est ainsi un exemple pour nous et nous incite à nous maintenir dans la lumière de Dieu, dans une foi simple, cherchant à glorifier le Seigneur, à répondre à son amour, à exprimer la reconnaissance à celui à qui nous avons affaire. Premièrement, la parole dit, par la bouche d'Abimélec et Picol, chef de son armée, Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Deuxièmement, l'approbation de Dieu est révélée par les fils de Heth après la mort de Sarah. Tu es prince de Dieu. Troisièmement, la foi d'Abraham est approuvée par Dieu dans l'épître aux Hébreux, qui relève sa fidélité, et toi, tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi. Genèse 17, verset 9. Et enfin, Dieu lui-même lui déclare dans Genèse 18, verset 19, je le connais, je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Et puis dans Genèse 22, verset 19, tu as écouté ma voix. Dieu approuve Abraham et nous. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Frères et sœurs, avançons étape par étape comme Abraham, étape par étape, ayant comme Abraham pour appui les promesses et l'approbation renouvelé du Seigneur, nous rappelant que son appel provient du Dieu de gloire.
Ah, entendu à la base cette marche d'Abraham, il y a ces mots, sors, va, viens, sors de ton pays et de ta parenté, puisqu'ils étaient idolâtres, va, c'est une marche vers l'inconnu, le pays que je te montrerai, mais viens, je serai là pour t'accueillir, viens. Mais le vient est seulement dans Acte 7. Dans la Genèse, c'est va, sors, va. Et alors, quand Étienne rappelle la vie d'Abraham, c'est viens. C'est une double expérience, n'est-ce pas? Il y a tout ce que le Seigneur appelle à quitter, à renoncer pour lui, à s'engager dans son chemin. Mais il y aura un compagnon, il y aura un ami. Abraham a été appelé ami de Dieu. C'est un terme très rare, n'est-ce pas? Viens. Ça n'a pas été tout seul, on l'a entendu.
Accessoire en plus que nous avons aussi en Marc chapitre 3, verset 13e, et il monte sur la montagne et il appelle ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Là aussi, n'est-ce pas? D'abord, être avec le Seigneur. Et après, une fois ils l'ont vu, il peut les envoyer. Et cette expression, le Dieu de gloire qui a appelé Abraham, ça me frappe toujours. C'est là le début, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que cela n'est pas décrit dans l'Ancien Testament? C'est Étienne qui le dit. Étienne lui-même, qui, avant qu'il commence de parler, nous lisons que son visage était comme un visage d'un ange. Il semblait qu'Étienne, lui, il jouissait de cette gloire du Seigneur ressuscité. Et s'était déjà vu dans sa face. Et alors il raconte ce récit de ce peuple d'Israël qui a commencé par la révélation de ce Dieu de gloire. Est-ce qu'Abraham n'a pas compris cette gloire comme Étienne, lui, l'aurait comprise. C'est bien possible, n'est-ce pas? Étienne, qui l'a connu comme le crucifié, comme le ressuscité. Et c'est lui qui peut dire le Dieu de gloire. Et c'est merveilleux qu'après, à la fin de son discours, Étienne, il voit le ciel ouvert. Et il voit la gloire du Seigneur lui-même. Mais c'est Dieu de gloire qui a complètement transformé la vie d'Abraham. Un homme qui vit dans un tel luxe, comme on pourrait dire, en Mésopotamie, en Irak d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut le sortir de son entourage? Quel problème, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il lui révèle tout simplement lui-même. Il se révèle lui-même. Et cette gloire transformera cet homme jusqu'à la fin de cette vie. Et sans doute, il en aura parlé à sa femme. Et nous n'entendons pas que Sarah dit « Oh, mais tu sais, on est bien confortable ici, en Mésopotamie, je ne sais pas quoi. » Non, elle va le suivre et il n'y aura jamais de questions. Et même son fils, comme nous allons le voir plus tard, son fils Isaac, sans doute, ce papa lui a parlé de cette gloire. Le Dieu de gloire, tu sais, il m'a apparu il y a bien des années. Eh bien, c'est à cause de cette apparition, de cette gloire, que nous sommes ici. Et c'est intéressant, nous avons parlé d'Étienne, il y a Saul de Tarse, qu'il a lui été d'accord qu'il soit lapidé. Et après, nous lisons combien Saul, il ravage les assemblées. Mais le même Dieu de gloire, dont il avait entendu le témoignage par Étienne, le même Dieu de gloire va lui apparaître à lui aussi. Comment est-ce qu'on va pouvoir transformer un homme comme Saul de Tarse? Eh bien, c'est la même chose. C'est l'apparition de la gloire du Seigneur, et Saul ne sera plus jamais le même. Il va même changer de nom, il va se nommer Paul, petit. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas? Eh bien, pour nous, la question, est-ce que nous avons eu cette apparition de ce Dieu de gloire? Ne pouvons-nous pas dire que c'est le plus grand désir de l'Esprit-Saint de révéler la gloire du Seigneur devant nos yeux? Et une fois que nous permettons à l'Esprit-Saint de révéler la gloire du Seigneur, eh bien tout ira de soi. Si nous vraiment sommes attirés par sa gloire, eh bien nous le suivrons et plus rien ne pourra nous retirer.
Il est remarquable de voir dans ce chapitre 7 des actes que nous connaissons bien, qu'il commence par l'appel de Dieu à Abraham, viens, et il le fait entrer dans l'héritage terrestre. Et ce même chapitre se termine par le Dieu de gloire qui dit à Étienne, viens, et il l'introduit dans l'héritage céleste. Ici, dans la vie d'Abraham, nous avons trois grandes périodes, comme nous le savons, qui sont marquées par cette expression particulière « après ces choses ». Nous avons donc du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14 inclus, et il est là question de l'héritage. Et Abraham s'y trouve comme étranger et pèlerin. À partir du chapitre 15, premier verset, « après ces choses », et jusqu'au chapitre 21 inclus, il n'est plus tellement question de l'héritage, mais il est question de l'héritier. De l'héritier. Et puis, à partir du chapitre 22, où nous trouvons à nouveau après ces choses, nous franchissons une troisième étape, et nous nous trouvons là, après la mort, sur un terrain de résurrection. Et à chacune de ces périodes correspond une demande particulière de Dieu et une réponse particulière d'Abraham. Dans la première partie, donc jusqu'au chapitre 14 inclus, 12 à 14, c'est l'appel de Dieu et de la part d'Abraham, la réponse de la foi. Dans la seconde partie, du chapitre 15 au chapitre 21 inclus, c'est à ce moment-là les promesses de Dieu. Et c'est la réponse de l'espérance, espérance avec des hauts et des bas. Et la troisième partie, donc, des chapitres 22 jusqu'au chapitre 25, de la part de Dieu, donc, c'est l'épreuve de Dieu, l'épreuve suprême,
est-ce à la réponse de l'amour. Foi, espérance, amour. Telles sont les trois étapes de la vie d'Abraham.
De la Genèse et la fin du chapitre 11, nous voyons donc que le chemin de Ur, de Chaldée, jusqu'à Caran est long. Il suit la vallée de l'Euphrate. Il y a, si nous regardons la carte de géographie, environ 1500 km, peut-être même plus. Ils suivent cette vallée prospère. Et nous voyons que c'est Terak avec sa famille. Et pourtant, l'appel a été fait à Abraham et non à Terak. La fin du chapitre 11 nous montre que c'est Terak qui prend avec lui sa famille. Ils arrivent à Caran. C'est un pays certainement prospère et ils restent là peut-être 15 ans, comme on l'a entendu. Et cela peut être aussi où la famille de Terak s'est enrichie, a acquis des biens. Mais en tout cas, le chemin pour aller à Canaan, ce n'est pas la voie la plus directe. Caran est aussi éloigné de Canaan que Ur l'était. Il n'a pas suivi le désert de l'Arabie. C'est en général le chemin que les caravanes suivent. C'est toujours par la partie prospère. Et la famille d'Abraham a suivi ce chemin. Dieu s'était adressé à Abraham, pas à Terak. Et pourtant, c'est Terak qui est ici. Et il faut que le vieil homme meure pour que Abraham réponde à l'appel et aille dans ce pays de Canaan. Il faut que le vieil homme soit enseveli pour que le nouvel homme puisse répondre à l'appel de Dieu. Et ici, Terak nous montre vraiment ce qu'est le vieil homme par rapport à Abraham, le nouvel homme. Est-ce que souvent ce n'est pas le cas pour nous, où nous nous laissons guider plutôt par notre vieille nature? Le Seigneur pouvait dire à Nicodème qu'il faut être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu.
Nous trouvons un Héber qui a probablement donné le nom aux Hébreux. Et au chapitre 14 de la Genèse, il me semble que c'est la première fois qu'il est appelé Abraham l'Hébreu. Donc, si c'est ce Héber qui a donné le nom à cette famille, on peut penser que, si on regarde les généalogies, Héber a vécu 250 ans en même temps que Noé. Il peut y avoir eu transmission orale et directe entre Noé, Héber et Abraham. Et que Abraham soit appelé l'Hébreu, et que le peuple de sa descendance le soit aussi, il y a peut-être une intention de l'Esprit de Dieu qui nous montre que cette transmission des vérités que la foi avait saisies par révélation directe a été aussi une transmission relativement courte, vu l'âge auquel parvenaient ces patriarches. Effectivement, Noé a presque vécu en même temps qu'Abraham, et Héber a été la jonction entre ces deux hommes. Si quelqu'un a ses tableaux chronologiques dans sa Bible, on peut le voir nettement que Héber est arrivé jusque dans les années au 1850 avant Jésus-Christ, tandis qu'Abraham est né, d'après ce tableau-là, en 2000 avant Jésus-Christ. Donc, environ 150 ans, il a pu vivre avec. Et le fait qu'il est appelé Hébreu nous laisse penser qu'il y avait une continuité qui était assez remarquable. Donc, si d'une part, il devait quitter sa parenté, d'autre part, alors, par la transmission orale qui a été faite depuis le temps de Noé, transmission très courte, puisque deux seules générations ont suffi, par cette transmission-là, on voit aussi que ce qui a été donné aux générations précédentes, donné par Dieu, doit être retenu. Si les générations précédentes ont dévié, et c'était le cas de Terak, elles ne doivent pas être une entrave. Mais par contre, s'il y a eu transmission de la pensée de Dieu, elle doit être retenue.
Il
l'histoire d'Abraham s'est passée il y a 4000 ans.
On voit Ur avec des maisons en briques, etc., des toits plats, des gens qui grouillent des ânes un peu partout. C'est un autre temps. Maintenant, ce soir, en étudiant ce sujet, c'est comme si Abraham était là, parce qu'il lui a été dit par Dieu lui-même, « En toi seront bénies toutes les nations ». Et on en fait partie. Autrement dit, il y a un lien direct à travers le temps qui compte pas, de 4000 ans, mais ça ne compte pas, entre Abraham et nous, et moi ce soir. Mais c'est fantastique. Et tout ceci pourquoi? Je crois que c'est revenu quelquefois ce soir. Tout ceci parce que Abraham, à travers ses épreuves, a appris ce qu'était la séparation. Alors on entend dire, et c'est juste, que la séparation pour Dieu est le principe de l'unité. Mais il y a quelque chose beaucoup plus important, je crois, beaucoup plus basique quant à la séparation pour Dieu. C'est un principe de vie. Alors si on prend dans le monde physique, on comprend tout de suite que la séparation est un principe de vie. Quand un enfant naît, il faut lui couper le cordon ombilical pour qu'il prenne son autonomie et qu'il commence à vivre par lui-même. Quand dans une famille, un enfant grandit, il désire se marier, eh bien pour que le nouveau couple fonctionne, il faut que l'homme se sépare de ses parents, quitte son père et sa mère. Principe de séparation pour créer une nouvelle cellule et donner la vie. Mais spirituellement, c'est exactement la même chose. À la nouvelle naissance, il y a aussi une sorte de cordon ombilical qui est coupé avec l'ancienne vie, pour qu'on puisse vivre, être autonome dans la vie de l'esprit. Abraham s'est séparé de sa culture. Il s'est séparé d'un peuple idolâtre. « Sors de ton pays ». Mais, savez-vous, c'était pour aller en Canaan où les gens étaient tout aussi idolâtres, voire plus, puisque Dieu a demandé quelques siècles plus tard d'éliminer complètement ces populations, tellement leur idolâtrie était épouvantable. Ils partaient de l'idolâtrie pour arriver dans l'idolâtrie. Mais ce qu'ils devaient comprendre, c'est qu'il fallait se séparer de ce monde, pour Dieu. Il arrive en Charan, il doit se séparer. Enfin, il a été forcé de le faire par les circonstances, se séparer de son père. Son père était là, qui était le chef de clan, qui tenait tout. Il y a une leçon pour nous aussi, vis-à-vis de nos enfants, des jeunes. Est-ce qu'on va agir en chef de clan, être finalement le tombeau de vocation? Abraham avait une vocation. Voilà que sa famille est là autour, son père surtout, pour essayer inconsciemment de tout bloquer. Comme cela a été dit, ils sont partis 1000 kilomètres le long de l'Euphrate, mais ils n'ont pas quitté leur culture. Il a fallu revenir en arrière 1000 kilomètres pour arriver en Canaan. Et on peut continuer avec ce principe de séparation pour Dieu. Il a dû se séparer de Lot. Il a dû se séparer d'Ismaël. Il a dû presque se séparer d'Isaac. Il a dû se séparer de sa femme. Et il s'est remarié. Et même encore maintenant, si nous devons être séparés de cette terre, il y a aussi ce principe de vie, c'est pour accéder à la vie nouvelle, à la vie éternelle. Je veux dire, ça c'est très important dans la vie d'Abraham. À travers ses épreuves, il a appris cette leçon. Et je pense que nous devons aussi l'apprendre, que cette séparation pour Dieu est un principe de vie. C'est peut-être difficile, c'est peut-être contraignant, c'est peut-être lourd des fois, et c'est certainement difficile souvent, mais c'est la source de la vie chrétienne, de la vie pour Dieu, la santé de nos assemblées, la santé de nos familles.
Encore un mot au sujet de cette séparation. La séparation est souvent très très douloureuse. C'est dur de se séparer, c'est tellement plus confortable de rester où on est. Et ce que je trouve de triste, c'est quand même de repenser à Terak, qui devait avoir de l'ordre de grandeur, je ne sais pas, de 190, on ne sait pas, environ à ce moment-là. Et lui, il prend les autres. Il prit Abraham, qui lui avait eu un appel. Et personnellement, il me semble que chacun d'entre nous devrait se demander si nous ne sommes pas parfois un Terak pour des enfants, pour des petits-enfants, dans notre façon de nous comporter. Et je crois qu'on peut demander vraiment au Seigneur de nous sonder, parce qu'on a cette impression qu'on peut faire mieux parce qu'on a plus d'expérience. Et il y a un moment donné où il faut avoir le courage de couper, et ça peut être très douloureux. Et un verset qui m'a frappé pendant que Marc parlait, c'est cette coupure mentionnée dans la première épître écrite dans le Nouveau Testament, celle des Thessaloniciens. C'est extraordinaire l'effet que ça a eu, parce qu'on en parlait dans toute l'Asie. Ce qu'ils avaient fait, ils avaient osé couper. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles. C'est une conversion, on tourne complètement. Vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. C'est un engagement complet. Et Pierre a insisté souvent sur cet engagement. Et pour les Thessaloniciens, ça n'a pas dû être facile. Et encore une autre chose pour notre engagement qu'on a dit tout à l'heure. Ça m'a frappé quand Pierre mentionnait que Abraham a construit son autel en face des Cananéens. C'est-à-dire qu'il y a cette communion qui se fait en face du monde, en face de ce qui est opposé à Dieu. Et alors, notre petit autel qu'on peut peut-être parfois construire, c'est quand on ose témoigner vis-à-vis des gens, ne serait-ce que lorsqu'on est dans un restaurant à table, et puis qu'on ose bâtir ce petit autel en montrant qu'on prie. Et il y a eu des grands miracles qui ont été créés comme cela. Des miracles d'aujourd'hui, de gens qui m'en ont raconté en Amérique il y a quelques semaines. Simplement le fait qu'une personne ose prier à table devant les autres, bien ça a un effet considérable. Oser, c'est un dièse de la foi.
Un aspect de plus pour aujourd'hui, dans cette vie d'Abraham, par la foi. Dans tout le cours de l'histoire, depuis la vie d'Abraham, on a eu cette expression, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. On retrouve cela bien souvent dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus se réfère à Abraham, on l'a vu. Étienne, l'apôtre Paul, et sans doute dans toute l'histoire de l'Église, y a-t-il eu aussi cet exemple extraordinaire de cet homme qui a été appelé, qui a répondu à l'appel. Je me pose la question si peut-être les leçons que Dieu a pour nous ces soirs ont une actualité peut-être particulière. Et de ce point de vue suivant, après la chute, les choses ont été de mal en pire assez rapidement, au point que Dieu a dû détruire toute la terre par le déluge, en sortant, délivrant Noé et sa famille. C'était un renouveau peut-être, mais de nouveau, le péché est encore là, et très rapidement, les choses ont été de mal en pis. Dieu procède maintenant d'une façon différente. Il sort un homme, sa famille, sa descendance, une nation. Ça prend environ 450 ans de la patience de Dieu pour que finalement les Cananéens soient détruits. Donc avec Abraham, il y a comme le commencement d'une nouvelle période où Dieu va intervenir en jugement. Il le fait avec Sodome et Gomorre. Il le fera avec les Cananéens plus tard. Pour en arriver aujourd'hui, n'arrivons-nous pas à la fin d'une période où Dieu va intervenir en jugement et où il désire qu'il y ait un témoignage qui soit rendu. Témoignage d'Abraham de ce temps-là, témoignage du chrétien aujourd'hui qui répond à l'appel de Dieu à cause de tout ce qui se passe autour de nous, le mal moral, etc., et répondre par la foi en se séparant pour Dieu, coupant pour Dieu, pour qu'il y ait un témoignage, alors que nous attendons le Seigneur Jésus qui vient nous chercher d'un moment à l'autre. Peut-être y a-t-il dans cette vie d'Abraham pour nous ce soir un appel particulier pour chacun de nous.
De l'appel d'Abraham, une prise de conscience de Térak, son père. Et lui a voulu donc prendre l'initiative et accompagner l'appel d'Abraham. Si nous lisons la fin du chapitre 11, d'ailleurs, il n'est pas du tout question de l'appel d'Abraham, il est question de la décision de Térak, prenant toute sa famille. Il avait un de ses fils qui était mort. C'était donc lui qui s'occupait essentiellement de Lot. Il prend toute la famille et ils partent. Et finalement, ils vont en Canaan. Et arrivés à une croisée de chemin, ils trouvent une autre ville. Et finalement, ils vont d'une ville à une autre ville. Ils vont, si l'on peut dire, d'une civilisation à une autre civilisation. Mais ils ne vont pas jusqu'à Canaan. Concernant Abraham, il avait eu l'appel de Dieu. Dieu lui avait parlé, il avait eu une première révélation, il s'arrête en chemin. Dieu ne lui parle plus. Dieu garde le silence. L'appel de la foi est un appel individuel. Abraham y a répondu en partie, mais en partie seulement. Et Dieu se tait. Et c'est uniquement donc quand Abraham a repris le chemin et est entré en Canaan qu'il nous a dit ce que Dieu avait dit à Abraham. Ce que Dieu avait dit à Abraham. Va-t'en, enfin ce sera relaté d'une façon un peu différente. Il lui avait dit, va-t'en de ton pays et tu iras au lieu que je te montrerai. Dieu fait une révélation, il attend que cette révélation ait été assimilée, que Abraham ait obéi à cette première révélation, il en fera une seconde qui sera plus étendue encore, et quand Abraham aura réalisé ce que Dieu a voulu lui dire, la vérité qu'il a voulu lui apprendre, il y en aura une troisième, et ainsi de suite, il y en aura certainement sept. La foi est donc quelque chose d'individuel. Et ce que Abraham mettra quand même un certain temps avant de comprendre, c'est que ce que Dieu lui appelait, c'était de passer du monde des choses visibles au monde des choses invisibles. La foi est le domaine des choses invisibles. Et si l'on retombe dans le monde des choses visibles, la foi ne progresse plus. Abraham aura tout en promesse. Il aura tout en promesse. Il verra le pays en promesse. C'est même Dieu, quel guide, qui le lui montrera. Mais il ne sera pas lui, il sera sa descendance. La foi d'Abraham va évoluer, et de toujours de plus loin en plus loin, dans le domaine des choses invisibles. Et Hébreux 11 nous montrera jusqu'où la foi, sondant les choses invisibles, a pu pénétrer loin la cité à venir.
Trois expressions que nous avons vues. Va-t'en.
Sors et viens. N'y a-t-il pas une leçon peut-être toute simple et pratique pour nous? Je pense également à l'exemple de Moïse, qui a été à l'école de Dieu, derrière le désert. Dieu l'appelle du milieu du buisson pour lui dire ensuite, « Viens et je t'enverrai. » On dit volontiers, à juste titre, que les croyants sont à l'école de Dieu toute leur vie. Et c'est vrai. Et on en fait chacun d'heureuses expériences dans cette relation personnel avec Dieu et avec le Seigneur. Mais n'aurait-on pas quelquefois tendance à rester en quelque sorte dans ce confort spirituel? On est bien, on reçoit les uns par les autres, on est heureux ensemble, mais on aurait tendance à rester dans cet environnement privilégié qu'est le nôtre, alors que ce que nous avons reçu, nous sommes invités à sortir à l'appel de Dieu pour l'apporter à d'autres. Et apporter à d'autres ce message d'espérance, de vie qui fait notre bonheur à chacun de nous. Alors, être à l'école de Dieu, oui. Être à l'écoute de ses pensées, de ses directives, oui. Mais il y a un moment où il faut répondre à Dieu, au Seigneur, quand il nous dit « Sors, va-t'en ! » Et puis viens, et puis je te montrerai ce que tu as à faire.
La séparation dont il a été question comme Abraham, à la suite de l'appel de Dieu, a dû se séparer, quitter, pour nous, nous sommes aussi appelés à nous séparer de ce qui est le monde. Ça, c'est un côté. Ce que je tiens à souligner, c'est qu'il ne faut pas que cela reste seulement un côté purement négatif, se séparer, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Mais ce qui importe, c'est de rechercher de l'autre côté cette décision du cœur de vivre dans la maison de l'Éternel. C'est là où j'habite. Et je pense à cet égard à ce verset du psaume 27, bien connu, qui montre cette décision du cœur. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la bonté de l'Éternel, la gloire de Dieu qui a paru à Abraham, et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Voilà le côté positif pour nous séparer mais du monde, mais nous habitons dans la maison de l'Éternel. Nous avons ce privilège d'avoir cette communion étroite qui nous est possible tous les jours de notre vie. Et puis, comme notre frère le disait, sortir ensuite de l'abondance du cœur, la bouche parle, si notre cœur a été occupé du Seigneur, eh bien, presque automatiquement, si on peut dire, dans la puissance de l'Esprit, eh bien, nous parlerons de ce qui remplit notre cœur. Alors, nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais de l'autre côté, nous habitons dans la maison de l'Éternel, il y a cette communion étroite, et puis de l'autre côté, ce témoignage que nous avons à rendre dans le monde. Et c'est bien ce qu'Abraham a vécu, déjà dans le passage que nous avons vu, Dieu lui a parlé et ensuite il a témoigné.